Bonsoir à tous. Ben, merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup à Annick de me faire l'honneur de m'inviter parmi vous. Pour clore ce cycle de conférences et pour revenir sur, à la fois à l'occasion du 50e anniversaire, revenir un peu sur 1962 et le sens de cette date, poser quelques jalons de l'histoire de l'Algérie indépendante et réfléchir à chaque étape de cette histoire sur l'impact que ça a, sur la façon que l'on a du côté algérien de raconter ou parfois de ne pas raconter ou de ne pas tout raconter l'histoire de cette guerre d'indépendance. Et vous allez voir que selon les périodes, on raconte plus ou moins, on raconte différemment, on se sert différemment de l'histoire de cette guerre. Et ça sera mon point de départ, une réflexion sur ce que c'est que 1962 dans l'histoire et dans l'histoire algérienne, avec d'abord des choses qui vont vous paraître évidentes, mais vous allez voir que ça prend du sens dans la façon de raconter l'événement. Ce que c'est que 1962, évidemment, d'abord, c'est la fin d'une guerre, c'est la fin d'une guerre de 8 ans, c'est la fin d'une guerre insurrectionnelle et contre-insurrectionnelle. Donc très concrètement, ça veut dire que c'est la fin d'une guerre, je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler déjà, c'est la fin d'une guerre qui a vraiment la population civile pour cible privilégiée. L'objectif est de gagner, par la violence ou par la conviction, de gagner la population civile. Les populations civiles sont constamment déplacées. La question des formes de répression est centrale, vous le savez, dans ce conflit. C'est vraiment la fin d'une guerre cruelle et donc, a priori, c'est un moment de très grand soulagement que cette sortie de guerre. Mais en même temps, c'est pas que ça. 1962, en même temps, c'est la fin de 132 ans de colonisation, et c'est la fin de 132 ans d'une colonisation un petit peu particulière, puisque, à mon sens, jamais, rarement, un régime colonial n'avait été aussi loin dans l'utilisation de deux choses en même temps, qui sont à la fois la violence d'une part, et en même temps l'acculturation des populations, hein, le fait de faire français ou de franciser, au moins en partie, toute une partie de la population, sans parvenir à ses fins. On pourrait comparer avec d'autres situations. Une autre colonie de peuplement, c'est la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez bien que l'issue de cette situation est très différente. Les cas britanniques, de nouveau, sont très différents. Là, on va très très loin dans la transformation de la population colonisée. Et en même temps, ça n'aboutit pas. La révolution, l'indépendance est une sorte de retour en arrière, et il y a vraiment cette idée, hein, dans l'idée de révolution, retour en arrière, on met fin au régime colonial, et symboliquement, les populations françaises, ou la majorité d'entre eux, beaucoup d'entre eux, quittent. Donc on a cette idée de retour au point de départ. Et parce que c'est la fin de cette période coloniale de 132 ans, 1962, en même temps, donne sens au passé. Elle donne sens à la période coloniale, elle la clôt et elle fait qu'on ne la regarde plus jamais de la même façon. Elle donne sens aussi à la guerre, elle apporte un gain, elle donne un résultat. D'une certaine façon, au moins dans la façon de penser et dans la façon de vivre les choses, on se dit qu'on a souffert pour quelque chose, on a obtenu quelque chose. Donc 1962 en tant qu'indépendance fait que le passé est compréhensible. Que le passé peut être entendu, accepté, il donne sens, 1962 donne sens au passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le départ et dès le vécu même de la guerre, c'est un événement qui est un événement mythique. C'est un événement dont le récit immédiatement contient des éléments qui sont presque de l'ordre de la légende, qui sont de l'ordre de l'épopée, et qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on discute avec les témoins qui ont vécu cette période-là. Très souvent, les témoins sont extrêmement émus, ils utilisent des mots très très forts. Beaucoup vous disent « c'est l'événement le plus fort de toute ma vie ». C'est quand on a vécu quelque chose comme ça, on peut survivre à tout. Tous les malheurs qu'on a connus par la suite, on a pu y survivre parce qu'on avait vécu ce moment d'une intensité absolument colossale, parce qu'il vient clore deux périodes, la période de la guerre et plus largement la période coloniale, deux périodes qui ont été des périodes souvent dans le vécu des personnes extrêmement, extrêmement douloureuses. Donc c'est vraiment un événement mythique qui est vécu presque comme le millénium, c'est vécu comme la fin de l'histoire. C'est vécu comme la plus grande chose qui puisse arriver dans l'histoire des gens, parce que c'est un événement d'une dimension hors norme. C'est aussi la fin de l'histoire parce que très concrètement en Algérie, vous n'avez pas d'historiens qui travaillent sur la période après 1962. Les historiens considèrent en général, et pour beaucoup de bonnes raisons, que l'histoire s'arrête en 1962. Ils le considèrent en général parce que c'est très difficile d'avoir accès à de la documentation après 1962. Ils le considèrent aussi en général parce qu'il y a des tabous très très forts dans la société sur l'histoire de cette période et parce que, je vais y revenir durant mon exposé, parce qu'évidemment il y a eu une pression politique très forte pour empêcher le discours, et en particulier le discours critique, de se constituer sur l'histoire du pays depuis l'indépendance. C'est pas un régime démocratique dans lequel vit l'Algérie actuellement. C'est un régime un peu, ambigu, pas complètement démocratique, mais en même temps avec des grandes poches de liberté d'expression, mais pas totale. Le fait est que le discours est très très lourd et que bien souvent les historiens sont réticents à s'engager dans cette voie. Et un des résultats, c'est que, à ma connaissance et après avoir un peu enquêté sur cette question, il n'y a pas un doctorant en Algérie dans un département d'histoire qui travaille sur l'histoire après 1962. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette histoire-là, elle n'est pas faite. Il peut y avoir des gens en sciences politiques, il peut y avoir des gens en sociologie qui font. Mais à un moment, il faut quand même écrire des choses, il faut travailler, il faut raconter, il faut essayer de trouver des sources. Et bien ça, vraiment, on est dans une situation où on n'a pas ça. Tout se passe comme si 1962 était indépassable. C'est vraiment le plus grand mythe de l'Algérie contemporaine. Et c'est un mythe qui est composé de beaucoup d'ingrédients très différents et d'apparences complètement contradictoires. 1962, c'est en même temps une période de deuil énorme pour l'ensemble de la société. C'est le moment où les gens qui sont dans les maquis redescendent et peuvent dire aux familles, lui reviendra pas, et lui reviendra pas, et tel autre ne reviendra pas. Où les gens peuvent faire un peu le bilan de qui est mort, qui est vivant, qui est blessé, qui a disparu, qui on ne retrouvera jamais peut-être. Donc c'est une période de deuil, de tristesse, et en même temps c'est une période d'euphorie et de fête, et les deux se font en même temps. Vous avez des jeunes qui, après avoir vécu 8 ans de guerre, n'ont pas connu une fête où on danse, parce que simplement c'était la guerre tout le temps, et qui donc en 62 connaissent leur première grande fête, et disent c'était la fête tout le temps, c'était la fête tout le temps, sauf quand on pleurait les morts, et on faisait les deux alternativement, ou en même temps, on mélangeait la fête et le deuil en même temps. C'est une période d'espoir colossal, l'espoir d'un monde nouveau, l'espoir d'une Algérie nouvelle, indépendante, qui va être juste, qui va apporter la justice sociale, etc. Et en même temps, pas après, en même temps, c'est déjà un moment de déception. Je vais y revenir dans mon exposé. En même temps, on sait déjà que ça va être compliqué, on sait déjà qu'il y a des conflits politiques, on sait déjà qu'il y a de la guerre civile entre les Algériens. Donc en même temps, c'est l'espoir le plus grand et une très grande déception. C'est en même temps un moment d'immigration et de retour. Vous avez des gens qui viennent rejoindre l'Algérie, des émigrés qui reviennent. Vous avez des gens qui viennent apporter leur force, qui ne sont pas nécessairement algériens, parce qu'ils pensent que c'est une cause extraordinaire. Et en même temps, vous avez des gens qui partent, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont le sentiment très fort que ce pays est en train de devenir n'est pas fait pour eux. Donc vous avez immigration et émigration, souvent de façon à la fois euphorique pour les uns et très douloureuse pour les autres, exactement en même temps. Et vous ajoutez à ces ingrédients du mythe de 62 le socialisme, la question de l'invention d'une nationalité algérienne, la question de l'islam, la question de la République. Enfin, vous avez une série d'ingrédients qui font que cet événement et dans le vécu de ceux qui l'ont connu, un événement extraordinaire, un événement qui marque la vie de ces acteurs. Alors, ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est d'abord essayer de mettre un peu au clair certains des événements de 1962. Vous allez voir, et peut-être certains d'entre vous le savent très bien déjà, que c'est une séquence d'événements assez complexe, et que derrière le mythe, derrière la façade qui donne une version très, très simple et parfois agréable des choses, en réalité se cachent des choses beaucoup plus complexes. Et puis après, on avancera vers l'histoire de l'Algérie indépendante, à chaque fois avec ce questionnement sur l'importance du récit de la guerre et le rôle du récit de la guerre dans l'Algérie indépendante. Il se passe des choses un peu curieuses sur ce PowerPoint, mais peu importe. Je vous présente simplement deux frises chronologiques. La première avec les trois dates très importantes de cette année 1962, et puis entre chaque, les trois périodes, pour aller vite, qui se dessinent. Trois événements donc qui scandent l'année. Le premier, c'est le 19 mars et la signature des accords d'Évian, qui donc marque l'accord enfin obtenu entre d'un côté les représentants du Front de Libération Nationale et de l'autre les autorités françaises. Deuxième date ou période charnière, du 3 au 5 juillet, où il se passe deux choses successives. La première, c'est ce qu'on appelle le référendum d'autodétermination, par lequel la population indique son choix de passer à l'indépendance, et ensuite l'indépendance effective deux jours plus tard. Et troisième période charnière, le mois de septembre, qui est vraiment l'installation de la République algérienne, avec l'élection d'une Assemblée nationale constituante, qui va ensuite nommer le premier gouvernement, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Ahmed Ben Bella, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Entre ces deux périodes, il y a ce qu'on appelle d'abord la période transitoire, qui est entre les accords d'Évian et ensuite le référendum d'autodétermination, et puis ensuite la crise de l'été 62 sur laquelle je vais revenir. Il faut d'abord réfléchir un tout petit peu à cette chronologie de trois événements qui a l'air toute simple. On signe un accord en mars, on décide de faire un référendum d'autodétermination, mais la première question, c'est à quoi il sert ce référendum ? À quoi ça sert, quand on a connu une guerre de 7 ans et demi, de s'assurer par un référendum que la population est bien d'accord pour l'indépendance? Et là, la vision algérienne et la vision française ne sont pas du tout identiques sur cette question. Pour le FLN, ce référendum, il ne sert à rien. Il n'est pas nécessaire. La population a fini par soutenir le FLN dans le courant de la guerre. Elle a donc déjà donné son accord à l'indépendance, et la question ne devrait même pas se poser. Et pourtant, De Gaulle insiste sur la tenue de ce référendum d'autodétermination en maintenant en quelque sorte la fiction que peut-être la réponse pourrait être non. On sait démographiquement que la réponse ne va pas être non. Mais il maintient cette fiction possible, et cette fiction possible, elle pose un très grave problème, c'est qu'elle crée l'illusion que peut-être un autre futur pourrait encore advenir. Elle crée cette illusion et elle permet à une organisation de prendre le devant de la scène durant cette période transitoire, l'organisation de l'armée secrète, qui a pour objectif d'essayer de faire dérailler le processus qui va vers l'indépendance. Alors, je ne dirai pas beaucoup de choses sur l'OAS, en particulier sur le fait que vraiment, d'une certaine façon, l'OAS émane de la population européenne d'Algérie, et elle émane de ce qu'elle était pendant la guerre et avant la guerre, c'est-à-dire qu'elle émane du désespoir provoqué à l'idée que cette Algérie qu'on s'est toujours représentée française pourrait être autrement. Et en même temps, l'OAS pousse extrêmement loin le niveau de violence, notamment dans les villes où, en dehors de la bataille d'Alger et à ce moment-là exclusivement contre la population colonisée, la violence n'avait pas atteint de tel niveau. Sont visés un peu tous azimuts les gens de la population colonisée, mais en même temps les Français qui souhaitent partir, qui sont obligés tout à coup de partir en catimini pour éviter que ça se sache, parce que si ça se sait, leurs appartements pourraient être plastiqués par l'OAS. On s'en prend aux gens qui pourraient être issus de la population colonisée, des soutiens de l'administration française. Parmi les Français, des gens qui pourraient être trop amicaux avec les gens issus de la population colonisée. Enfin, quand même, la violence atteint un niveau et une variété de cibles qui va extrêmement loin et qui fait que les grandes villes d'Algérie connaissent à ce moment-là leur paroxysme de la violence. Ce niveau de violence accru joue un très grand rôle à un moment où, pour les Européens d'Algérie, la question de la possibilité pour eux de vivre en Algérie se pose. Ça va être un moment charnière, ça va être un moment de bascule, les choses vont changer, beaucoup de gens se demandent si c'est leur place, où est-ce qu'ils ont envie de vivre, est-ce qu'ils peuvent se sentir chez eux dans ce nouveau pays qu'on commence à voir arriver, et le fait que l'OAS pousse plus loin le niveau de la violence est pour beaucoup dans le choix d'énormément d'Européens de partir à ce moment-là. Le 3 et le 5 juillet, vous voyez qu'il y a un petit décalage de 2 jours. L'indépendance n'est pas prise et n'est pas revendiquée immédiatement par les autorités algériennes dès le 3 juillet. Il y a une petite latence sur laquelle on a beaucoup glosé pour savoir pourquoi on attend 2 jours, pourquoi c'est pas le 3. Alors c'est le 5 pour commémorer d'abord et pour en quelque sorte contredire, contrebalancer l'arrivée des Français en 1830, ce qui est quand même symboliquement une façon un peu d'effacer, de dire on revient, voilà, on revient au 5 juillet 1830, le 5 juillet 1862. D'autres interprétations qui sont peut-être pas contradictoires disent aussi que c'est une façon de dire que l'indépendance n'est pas donnée par les autorités françaises, elle est à un moment donné revendiquée par le gouvernement provisoire de la République algérienne qui fixe sa propre date et qui est donc en quelque sorte maître du calendrier et symboliquement au moins maître du jeu. Ce qui est important pour la République qui naît à ce moment-là, c'est le fait que cette indépendance, elle ouvre une période compliquée, une période de crise très forte. Alors on dit en général la crise de l'été 62, c'est un doux euphémisme, pour ne pas dire la guerre civile de l'été 1962, sur laquelle je vais revenir dans un instant, et qui ne se clôt qu'à partir du mois de septembre, quand on sait de façon beaucoup plus claire qui sera le vainqueur de cette période de conflit. Alors la question qui se pose est de savoir, durant toute cette période de 1962 que j'ai décrit précédemment, qui est-ce qui a le pouvoir ? Qu'est-ce qu'a le pouvoir, la prise de décision ? Alors il faut savoir que les accords d'Évian prévoyaient un certain nombre d'institutions transitoires. La première, c'est ce qu'on appelle l'exécutif provisoire, qui est installé à proximité d'Alger et qui est chargé d'organiser la transition vers le gouvernement de l'Algérie indépendante. Mais avec beaucoup de questions, côté algérien, on se demande très fort si cet exécutif provisoire, qui est composé à la fois d'Européens et d'Algériens, si ça ne va pas être une sorte d'embryon de gouvernement que utiliserait le général de Gaulle pour contrôler l'Algérie indépendante. Si on va faire de ça le gouvernement de l'Algérie de demain, il va avoir en quelque sorte un levier, une façon de faire pression sur l'Algérie indépendante. On est extrêmement méfiant de ça. Localement, on instaure une police qu'on appelle la force locale, qui elle aussi se combine. On a dedans des policiers français, mais en même temps on a des policiers algériens, certains qui descendent tout droit des maquis pour rejoindre la force locale. Donc tout cela coexiste à côté de la police française. Donc on a des institutions transitoires qui sont relativement complexes. Et en même temps, côté algérien, il y a un vrai problème pour savoir où est la source du pouvoir, où est le pouvoir légitime. Et la raison de cette complication, c'est que vous avez en réalité 3 sources de pouvoir qui se disputent, qui commencent à se disputer très tôt, hein, qui commence. On voit très clairement la dernière grande réunion à l'intérieur du FLN. C'est la réunion qui a lieu à Tripoli entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 1962. Et déjà à Tripoli, on voit que entre les dirigeants du FLN, c'est une affaire très compliquée. Qu'il va y avoir des luttes de personnes, qu'il va y avoir des luttes de pouvoir, que l'armée de libération nationale va vouloir jouer son rôle et que on va vers une période de conflit.